Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Lachowski.
Bonjour, chers amis auditeurs, chers amis auditrices. Prenez soin de vous, prenons soin de nous tous et de nos soignants en particulier. Ils sont en première ligne et nous leur disons merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui partout dans le monde accueillent, prennent en charge et accompagnent les patients atteints du coronavirus. Merci aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins, au personnel de nettoyage et de ménage. Merci aussi à tous ceux qui assurent la continuité de nos vies confinées, aux employés des transports et des commerces, aux caissières, aux facteurs, aux livreurs, aux éboueurs. Décidément, cette pandémie bouscule nos repères et nos hiérarchies. Elle nous montre aussi à quel point ceux que l'on ne voyait pas, les plus humbles, les moins considérés, sont absolument essentiels à nos vie. Et pourtant, ce sont souvent eux les plus vulnérables, les plus précaires, les plus mal lotis qui sont le plus touchés par cette pandémie. Le Covid-19, double peine pour les plus vulnérables d'entre nous. C'est le sujet du jour de Priorité Santé. Comment se protéger, comment se soigner, comment se confiner quand on n'a pas de toit, quand on n'a pas d'eau pour se laver les mains, quand on a besoin de chercher chaque jour de quoi vivre? Autant de questions essentielles qui nous renvoient, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, à une prise de conscience du sort partagé de notre humanité. Et si pour nous en sortir, il nous fallait enfin prendre conscience de notre commune vulnérabilité? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. La professeure Dominique Kerwédan, médecin en santé publique, épidémiologiste, engagée sur tous les terrains de la santé mondiale, coordinatrice du groupe Afrique de la cellule de veille pour le coronavirus de l'Académie de médecine. Également avec le docteur Claire Georges, responsable de la consultation de précarité et de permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital Saint-Louis à Paris et coordinatrice de ces consultations en France. Nous serons également un peu plus tard en ligne avec Valérie Thomas, responsable médicale du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui a mis en place le premier centre d'hébergement pour les sans-abri infectés par le Covid-19. Et puis nous partirons au Brésil, sur les traces de notre correspondante Sarah Cosolino, qui nous entraînera dans les favelas de Rio, où l'extrême précarité côtoie la pire des violences, mais aussi la solidarité. Et si cette épidémie qui nous confronte au pire permettait aussi de faire ressortir le meilleur de notre humanité, c'est le mieux que l'on puisse se souhaiter collectivement et individuellement. Bienvenue dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Bonjour, professeur Dominique Kerwédan.
Oui, bonjour, Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous par téléphone. Vous êtes médecin en santé publique, épidémiologiste, coordinatrice du groupe Afrique de la cellule de veille pour le coronavirus de l'Académie de médecine, fondatrice de la spécialisation en santé mondiale de l'École des affaires internationales de Sciences Po. Vous défendez, Dominique, partout, sur tous les terrains, au sud, vous avez beaucoup travaillé, comme dans les grandes instances internationales, ce concept de santé globale, de santé pour tous. Et on voit aujourd'hui, avec cette épidémie, à quel point c'est essentiel, forcé de constater à quel point donc l'accès à la santé pour tous, en particulier pour les plus vulnérables, c'est à la fois une urgence, une obligation absolue. Finalement, on n'a plus le choix. Est-ce que c'est cela aussi que révèle cette pandémie, Dominique Kerwédan?
Oui, tout à fait. Et je voudrais insister sur le fait que je vois encore, bon, je vais parler de l'Afrique que je connais mieux, mais aussi de la situation des personnes migrantes et en situation de des pays de, en situation de conflit armé. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que le virus maintenant circule partout et que les mesures que prennent les autorités nationales ou les instances internationales doivent être étendues sur l'ensemble des territoires, l'ensemble des régions et pas seulement de manière localisée dans les mégapoles africaines par exemple ou dans certaines régions. Je pense que là, on doit vraiment se préparer à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, partout sur le continent africain. D'une part, donc la riposte, elle appelle aussi une riposte globale au sens de tous les acteurs qui doivent être concernés. Donc au niveau de l'État, c'est interministériel. Mm-hmm. C'est une riposte qui doit être basée au niveau de la primature ou du président de la République. Tous les secteurs sont concernés. Mmh. Donc, l'éducation, les universités, l'habitat, l'alimentation, la santé évidemment, et les entreprises, le secteur privé, les collectivités, c'est vraiment une mobilisation nationale qui est appelée pour les situations. Du conflit, vraiment, c'est le moment plus que jamais pour les rebelles, quel que soit leur côté, leur revendication, de respecter le droit humanitaire international et l'accès des soignants et le travail des soignants et des personnels en appui à cette réponse sur l'ensemble de territoires, hein, que ce soit en Syrie, au Yémen, à Gaza, en Libye, au Sahel, etc. Il faut vraiment permettre, absolument mettre une trêve, hein, cesser absolument les conflits partout pour permettre la lutte et l'unité nationale contre un ennemi commun qui est ce virus. Donc les populations vulnérables sur le continent africain sont...
Comment les... Enfin, nous sommes tous vulnérables, hein, on va y revenir là-dessus, mais quelles sont les populations les plus vulnérables sur le continent, Dominique Erouédan? Évidemment, voilà, ceux qui sont menacés par les conflits, par la...
Oui, alors, dans des pays, justement, où le PIB est tellement bas et où dans des régions, 70% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté, tout le monde est vulnérable. Mais aujourd'hui, il y a des situations sur le continent africain qui sont vraiment des foyers de contamination très rapides, qui doivent être, où on doit intervenir très rapidement. Ce sont les détenus. Il faut libérer les détenus absolument très rapidement. Il faut absolument intervenir auprès des situations de migrants dans les camps de réfugiés, auprès des migrants qui sont en train d'être en route, hein, qui sont en route, hein, depuis l'Afrique dans différentes régions vers le nord, auprès des populations déplacées, notamment au Moyen-Orient où on a encore assisté récemment à des déplacements très très importants de populations en Syrie par exemple, des populations déplacées et détenues en Libye. Bon, tout ça c'est vraiment les urgences auxquelles ont appelé, hein, le HCR, l'Organisation internationale des migrations, le Conseil des droits de l'homme, etc. Et là je crois qu'il faut que les gouvernements et les sociétés réagissent très vite. Mais sinon on est aussi dans un contexte de vulnérabilité en Afrique, parce que ce sont des régions qui ont traversé depuis des décennies la pandémie de sida, des guerres civiles, les conflits au Sahel, le terrorisme, l'intervention de Boko Haram encore au Tchad il y a 15 jours, l'épidémie d'Ebola, etc. Donc ce sont des personnes, et toujours les mêmes, qui doivent répondre à cette situation maintenant de pandémie aujourd'hui. Il faut vraiment qu'elles soient relayées, qu'elles soient encouragées, qu'elles aient tous les moyens de la réponse. C'est la responsabilité des États, mais aussi des entreprises privées, mais aussi des collectivités. Et la vulnérabilité à l'échelle individuelle aussi, hein, des personnes donc qui sont les plus à risque de développer des formes graves sont les personnes dénutries, les personnes les plus pauvres, les personnes âgées, les mineurs isolés du fait de leur situation isolée, les jeunes femmes enceintes et adolescentes. On est sur un continent où la croissance démographique est extrêmement importante. Donc il y a beaucoup, beaucoup de très jeunes femmes enceintes, des adolescentes enceintes qui sont vulnérables. Les malades qui ont une pathologie infectieuse, donc le VIH-Sida, la tuberculose, mais aussi le paludisme, les hépatites virales, les maladies tropicales négligées, donc toutes les pathologies infectieuses, avec le souci de ne pas passer à côté d'une crise de paludisme qui demandent un traitement en urgence lorsqu'on suspecte aussi devant une fièvre une éventuelle pathologie Covid. Donc vous voyez, il faut bien faire et que les médecins fassent bien la part des choses entre les différentes fièvres.
C'est énorme en fait, c'est vraiment un chantier énorme sur le continent. Oui. Et vous avez raison de nous appeler, de nous le rappeler, Dominique Herouédan. Vraiment, il y a urgence pour tous et pour tout le monde, collectivement, individuellement, sur le continent, au sud. Et puis, nous sommes ici, finalement, tous sur la même planète et partout dans le même monde. Il y a urgence partout de faire attention d'abord aux plus vulnérables. C'est de ce dont on va parler avec vous, docteur Claire-Georges également. Bonjour, docteur Claire-Georges.
Bonjour.
Merci aussi hein, d'être là pour relayer cet appel avec Dominique Herouédan. Alors vous êtes responsable médical de la PASS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital Saint-Louis à Paris, aussi président de ce collectif national des PASS, hein, ces consultations pas comme les autres, qui sont réservées aux plus démunis, hein, on y revient, aux sans-abri, aux migrants, hein, dont parlait aussi Dominique Herouédan, à tous ceux qui, d'ordinaire finalement, n'ont pas accès aux soins, alors que ce sont eux, on le rappelle encore, les plus vulnérables, qui en ont le plus besoin. C'est un peu, on l'entendait avec cet appel de Dominique Herouédan, comme si, docteur Claire-Georges, on le découvrait aujourd'hui avec cette pandémie, qu'il faut faire attention aux plus vulnérables et que ça nous concerne tous.
Oui, alors je rejoins ce que disait Dominique Herouédan. Alors c'est vrai que nous on est habitués à faire face à des situations qui sont un petit peu hors cadre dans les hôpitaux, tout particulièrement parce que la plupart des permanences d'accès aux soins de santé sont situées dans les hôpitaux. Et c'est vrai que les hôpitaux sont organisés de manière à recevoir des situations qui sont bien caractérisées, avec des pathologies bien identifiées. Et c'est vrai que les situations des patients vulnérables en situation de précarité, c'est des situations qui cumulent beaucoup de problématiques déjà médicales, des pathologies associées, et puis des déterminants qui font que le contexte est rendu difficile avec l'absence d'hébergement, l'isolement, parfois la barrière de la langue, des difficultés financières qui vont finalement amener des situations complexes, difficiles à prendre en charge dans les hôpitaux.
Et donc, d'où il faut ces consultations très particulières.
Voilà, alors
Oui, vous abordez ça de manière complètement interdisciplinaire, complètement différemment de la manière dont on aborde les consultations normales à l'hôpital.
Oui, et disons que on est confronté à des situations qui appellent une réponse, comme disait Dominique, globale, une réponse décloisonnée qui prend en compte aussi bien la dimension médicale dans le sens médico-technique que la dimension médicale dans le sens global, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les dimensions de la personne dans son environnement, dans les dimensions psychosociales toutes les dimensions de son environnement.
D'où l'intérêt de cette expérience que vous avez auprès d'eux aujourd'hui, où il est fondamental dans les rues de nos villes, au nord comme au sud, de s'occuper, de se préoccuper des gens qui sont à la rue, sans toit, ou qui sont effectivement les plus précaires, les plus mal lotis.
Oui, alors c'est vrai qu'on se rend compte que la crise actuelle entre en résonance avec, c'est vrai ce qu'on connaissait déjà, mais en effet cette nécessité de réagir, de s'adapter à des problématiques pour lesquelles le système de santé n'est pas préparé, n'est pas forcément adapté. Et c'est vrai que ce que l'on voit se mettre en place à l'échelon des hôpitaux, des services, se met également en place à l'échelon plus global, et en particulier pour ces personnes en situation de vulnérabilité. Bon, ce que j'observe dans ma région, dans la région parisienne et à Paris, c'est que cette collaboration entre différents professionnels et à différents échelons, c'est-à-dire l'échelon du terrain qui collabore avec les tutelles, se met en place de façon réactive et peut-être, bon, évidemment, de façon bien plus rapide que ce qu'on n'a jamais connu, mais on le voit dans toutes les dimensions, aussi bien à l'hôpital, qui se reconfigure jour après jour pour s'adapter au jour le jour et parfois même plusieurs fois par jour à l'évolution des connaissances, de l'évolution de l'épidémie. Et donc, concernant les plus vulnérables, en effet, il y a une prise de conscience que c'est essentiel de trouver des dispositions nouvelles qui permettent d'aller vers les personnes, de trouver comment les héberger, parce que c'est vrai qu'on est confronté à des cumuls de vulnérabilité avec des personnes qui vont souvent être regroupées, être souvent avoir une méconnaissance du système, méconnaissance aussi des mesures qu'il faut adapter, parfois une mauvaise compréhension. Donc on a besoin de nouvelles approches, de nouveaux dispositifs, et c'est vrai que moi, ce que j'observe dans la région, c'est que ça se met en place avec des dispositifs de desserrement pour finalement diminuer la proximité des personnes. Des centres qui sont adaptés à la prise en charge des patients atteints de Covid, avec une surveillance des équipes mobiles soignantes qui se mettent en place, des surveillances bien structurées. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas parfait et qu'on est contraint à faire ce qu'on peut faire. Avec la réalité, c'est aussi une leçon qui me semble importante. C'est qu'en effet, on est confronté à des réalités qui sont... qui nous impose de faire évoluer, de penser les choses autrement et de faire au mieux ou tout au moins mal, sachant que voilà, la réalité est telle qu'elle est et on est quand même confronté à quelque chose de masse qui ne peut qu'être traité au moins mal.
Au moins mal, c'est ça, et qui peut être traité uniquement de tous les points de vue et de la part de tout le monde. Comme le dit l'artiste togolais Snaky, les temps sont graves. On l'écoute chanter tout de suite sur RFI, Snaky Da Future.
Africa, my nation. Audio. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est plus le moment de la rigolade. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Les temps sont graves, oh, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. Ce n'est plus le moment de la rigolade. Tout ce qu'on te demande, c'est de rester chez toi. Reste chez toi. Oui, 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 de rester chez toi. Reste chez toi. Pendant la journée, lave-toi les mains plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, 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 lave-les plusieurs fois. Évitez au maximum les contacts. Les temps sont graves, les temps sont graves. Les temps sont graves, les temps sont graves. Ce n'est pas le moment de la rigolade. C'est pas le moment de la rigolade. Chef d'État africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas le moment de faire de la politique. La politique. Vous n'allez pas gouverner un peuple cadavré. Cadavré. Réveillez-vous, réveillez-vous. Chef d'État africain, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas le moment de chercher vos intérêts. Vos intérêts. Vous n'allez pas gouverner un peuple cadavré. Cadavré. Réveillez-vous, réveillez-vous.
Your boy vicious.
Réveillez-vous, c'est Snaky, chanteur togolais, qui le dit sur nos antennes, sur RFI. Vous êtes bien à l'écoute de Priorité Santé. Dominique Herouédan, vous êtes médecin, épidémiologiste et coordinatrice du groupe Afrique, de la cellule de veille pour le coronavirus de l'Académie de médecine. Finalement, Snaky, ce chanteur togolais, dit la même chose que vous à sa manière.
Oui, moi je trouve ça remarquable la façon dont les artistes africains se sont emparés tout de suite de la thématique, parce qu'ils sont très écoutés et très très aimés. Bon, ils parlent aussi dans leur langue et je crois que c'est très très important aussi de disséminer les messages dans les langues locales partout dans les pays. Donc oui, il a bien intégré les messages très importants. Je pense qu'il faut aussi communiquer sur la peur.
Sur la peur, oui.
Oui, sur la peur, parce que bon, c'est une épidémie qui, même si dans 80% des situations ou plus, on guérit tout à fait spontanément avec des symptômes très banals, c'est quand même une épidémie qui fait peur et je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à des questions, donc mettre en place des lignes téléphoniques, des personnes disponibles, formées pour ça dans toutes les formations sanitaires.
Parce que c'est vrai que ça fait peur. On a pas mal de messages hein, sur nos réseaux sociaux, bien sûr. J'ai envie de vous poser la question d'un de nos auditeurs en RDC, il s'appelle Kapenga. Il demande, est-ce que les manifestations de la maladie sont les mêmes chez tous les patients ou est-ce que ça dépend d'un organisme à l'autre ?
Ah non, non, les formes d'expression de la maladie sont très très variables. D'abord, on peut ne pas en avoir du tout, on peut être un porteur sain du virus tout en étant contagieux. C'est pour ça qu'il faut garder ses distances le plus possible avec les autres ou porter un masque maintenant. Donc sur la question de la distanciation, bon, c'est d'abord une question d'hygiène, hein, d'abord une question d'hygiène de base.
Se laver les mains.
Se laver les mains, nettoyer son domicile à l'eau de Javel, tous les points de contact avec les mains, toutes les surfaces.
Mais c'est compliqué, et c'est très compliqué même cette question de confinement quand on habite à plusieurs. Est-ce que la cour peut être un lieu de confinement ? Enfin, c'est vraiment des questions qu'il faut pouvoir se poser.
Oui, alors il y a des recommandations justement de la Société française de médecine de catastrophe que je communique parce que c'est le médecin général Henri Julien qui est avec nous dans le groupe de l'Académie de médecine en charge de cette pathologie. Et donc cette Société française de médecine de catastrophe donne beaucoup de conseils concernant les masques. Ils sont en train d'élaborer des tests pour tester des masques artisanaux, l'efficacité de ces masques. Et je pense qu'en Afrique, on va devoir passer massivement à la fabrication de masques artisanaux. Parce que, comme partout, il y a une pénurie de masques chirurgicaux ou autres. Mais par contre, du côté des soignants, il faut absolument protéger
les soignants,
les soignants, parce qu'ils sont très exposés, évidemment, par rapport aux malades, ils sont très exposés à des charges virales qui circulent beaucoup plus concentrées. Vous voyez, donc
Il faut vraiment protéger les soignants. À propos des masques, on a une autre question d'un de nos auditeurs, Boubacar, qui dit, lui, nous utilisons des masques de marque Noveco, et il demande surtout, est-ce qu'après le port du masque pendant 3 heures, on peut l'enlever, frotter les faces avec un gel hydroalcoolique et le porter à nouveau? Il dit, il y a beaucoup de gens autour de nous, évidemment, dans les marchés, transports en commun, même sur la route. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser son masque, le laver, Dominique Herouédan?
Ben, le laver, ça dépend la matière
hein, c'est ça. Hein.
Avec laquelle est faite le masque. Si c'est un tissu, il vaut mieux le bouillir que simplement mettre du gel hydroalcoolique dessus, vous voyez. Et les masques chirurgicaux, on ne peut pas les réutiliser. Si la personne est porteuse du virus, elle doit changer son masque régulièrement, comme on le fait dans les hôpitaux. Mais la question des masques, elle est artisanale. Elle est compliquée parce qu'ils sont en train d'être testés. Mmh. Donc, on attend donc les recommandations de cette société française de médecine des catastrophes d'une part et de l'Académie d'autre part sur les masques alternatifs. Mais à part ça, c'est quand même une pathologie, oui, très contagieuse, mais dont les formes symptomatiques sont très variables, on le disait, donc pas de symptômes, parfois une fièvre simplement, parfois une fièvre avec une toux, parfois une toux simplement, donc c'est vraiment très variable, mais le signe qui doit amener à consulter, c'est la difficulté à respirer, c'est surtout ça. Et les personnes à risque de développer des formes graves et d'avoir du mal à respirer, ce sont les personnes qui ont déjà une pathologie chronique, c'est-à-dire une hypertension artérielle, une pathologie cardiovasculaire, le diabète, qui est très fréquent hein, en Afrique,
absolument,
dans le Maghreb et partout en Afrique subsaharienne.
Et à ce sujet, un autre...
Les bronchopathies chroniques obstructives, hein, qui sont...
Pardon,
les bronchopathies chroniques obstructives, donc, qui sont déjà des incapacités, des limitations à respirer déjà existantes et qui, donc, avec l'infection du virus, risquent de dégénérer vers une détresse respiratoire. Mais aussi les personnes avec un cancer qui ont une immunité plus faible que les patients qui sont en bonne santé. Et donc les vulnérabilités, elles sont aussi avec ceux qui ont des pathologies chroniques. Et
justement, Dominique Hervouet, à propos de pathologies chroniques, un de nos autres auditeurs, un auditeur justement sur les réseaux sociaux, alors lui c'est depuis Bamako au Mali, Kalilou nous demande est-ce que les personnes en surpoids ou obèses qui sont présentes, il trouve, hein, il dit en large proportion dans les services de réanimation, est-ce qu'il y a un lien? Voilà, c'est ce qu'il nous demande, entre surpoids et forme sévère du Covid-19.
Oui, alors les médecins en réanimation en France ont bien identifié les personnes avec une hypertension artérielle et une obésité comme étant des personnes à risque, effectivement, de développer des formes graves et de se retrouver en réanimation. Alors ça, ce sont des descriptions en Europe. Je crois qu'il faut... Bon,
il y a pas... Oui, oui, il faut différencier, en fait, selon aussi les pathologies, les continents, les urgences, en fait.
Oui, alors, je crois qu'il faut être prudent avec tout ce qu'on dit et tout ce qu'on trouve, parce que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on trouve, où, déjà, il y a en parler en général, et il y a en parler sur la base de références scientifiques.
Bien sûr.
C'est deux choses différentes.
Bien sûr.
D'autre part, effectivement... ce qui a été vrai en Chine ou en Italie ou en France ou ce qui est vrai en Allemagne ou dans d'autres pays du Nord n'est pas forcément transposable au contexte africain. Donc je pense que les pays doivent développer aussi leur recherche opérationnelle et ça les financements internationaux doivent absolument contribuer à la recherche opérationnelle, la recherche clinique, la recherche opérationnelle,
la recherche... Vous collaborez, vous êtes en lien, hein, Dominique Hervouet, avec de nombreux chercheurs, médecins, épidémiologistes sur le continent, vous travaillez avec eux
Oui, nous avons constitué à l'Académie un groupe Afrique avec des correspondants, on les appelle comme ça, donc en Côte d'Ivoire, pour le Mali, Burkina Faso, au Rwanda, au Niger, au Bénin, au Togo, à Brazzaville et aussi à Madagascar. Pour l'instant, c'est intéressant parce que c'est en même temps une plateforme, l'une des plateformes d'échange d'expérience, hein. Il y en a d'autres... au travers du réseau IMED, hein, sur le médicament notamment, mais c'est une plateforme d'échange d'expérience où nous communiquons les recommandations qui sont et les communiqués qui sont produits par l'Académie de médecine, mais nous cherchons aussi à avoir des solutions appliquées aux situations spécifiques des pays africains. Et je pense qu'il faut que tout le monde accepte. Bon, d'abord, il faut éviter absolument qu'il y ait des rumeurs qui soient à l'origine de dérapage social et de violence.
Attention, hein, attention.
Ça, il faut des messages extrêmement clairs de la part des autorités. Il faut bien former les personnes qui communiquent là-dessus. Moi, ce que j'ai vu en France, c'est que le rôle des médias est très important et que on à la télévision, on a tendance à voir des journalistes qui posent des questions à des personnes qui ne relèvent pas de leurs compétences. C'est-à-dire, ils vont poser des questions de nature épidémiologique à des médecins cliniciens, par exemple, des infectiologues. Mais les infectiologues, les médecins ne sont pas des épidémiologistes, d'une part. D'autre part, il faut accepter qu'on ne sache pas tout. C'est un nouveau virus.
Ouais,
c'est un nouveau virus complètement. Donc, il faut accepter de dire « je ne sais pas » plutôt que de dire « n'importe quoi ».
Et plutôt que d'alimenter la peur qui est déjà suffisamment là.
Hein. Les rumeurs, la peur, etc., de se limiter vraiment à ce qu'on sait et de manière scientifique et d'accepter de dire je ne sais pas, ce qui est très difficile pour l'homme moderne et le chercheur ou quel qu'il soit occidental qui est bon, qui a son arrogance et son assurance et qui a du mal à dire je ne sais pas. Et bien face à ce nouveau coronavirus, il y a beaucoup de choses qu'on ignore parce qu'on découvre pas à pas, et on découvre pas à pas dans les contextes qui sont ceux des pays. L'Italie, c'est pas la Suède, la Côte d'Ivoire, c'est pas le Burundi ou Haïti, vous voyez, donc les contextes sont extrêmement variés. Moi, je voudrais partager ce que Connie Coïta dans notre groupe nous a, Coïta,
oui,
nous a transmis, qui est une de African Center, donc c'est africancenter.org, une carte des facteurs de risque de la propagation du virus en Afrique en fonction de différents critères de vulnérabilité, mais là qui sont des vulnérabilités de nature politique, hein, macro, qui ne sont pas des vulnérabilités individuelles, mais qui sont tout aussi fondamentales sur le continent pour bien lutter contre cette pandémie, c'est-à-dire l'exposition à des relations, à des, donc internationales, hein, des communications internationales. Deuxièmement, une vulnérabilité de l'état des systèmes de santé. Il faut
bien
voir
sûr
dans quel état sont les systèmes de santé, le peu de soignants qu'il y a dans ces régions africaines, d'autant plus dans les situations de conflit où les soignants ont dû fuir parce qu'ils ont été attaqués par violation du droit international qui devrait les protéger. Il faut que les groupes rebelles, les terroristes, les groupes armés respectent le travail des soignants. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir envie de tuer et faire fuir celui-là même qui peut le sauver?
Et il faut aussi que les gouvernements l'entendent, hein.
Oui, absolument, les gouvernements également, parce qu'on a vu en Syrie que les bombardements des hôpitaux ont été massifs, l'assassinat des médecins également. Bon, c'est autant de ressources qu'il n'y a pas en Syrie aujourd'hui pour combattre l'épidémie
Au fond, les mêmes questions. Il y a vraiment urgence absolument partout sur la planète, hein, on le comprend avec vous, Dominique Erwédan, pour les plus vulnérables. Alors, évidemment, sur le continent africain, évidemment, au nord comme au sud, partout, dans le sous-continent indien également, hein, où les plus vulnérables sont aussi victimes de violences, mais sur les routes. En Amérique du Sud, je propose de nous arrêter maintenant sur le Brésil, touché bien sûr, lui aussi, comme nous tous, par la pandémie. Reportage au cœur des favelas pendant le coronavirus, reportage saisissant de notre correspondante à Rio, Sara Cozzolino, qui s'est rendue auprès des habitants de plusieurs favelas autour de Rio.
Nous sommes dans la favela de Chapéu Mangueira sur les hauteurs de la mythique plage de Copacabana. Un petit terrain multisport a été reconverti en centre de solidarité pour les habitants du quartier. Dans les gradins, une vingtaine de bénévoles avec masques et gants sont penchés sur leurs marmites.
Ici, on a du riz avec des haricots rouges maison, des spaghettis à la sauce tomate, des petits légumes sautés. Quand il n'y en aura plus, on les remplacera par de la salade avec des tomates. On a aussi des petits kits d'hygiène, des serviettes hygiéniques pour les femmes, du savon.
Carlos Oliveira, chef cuisinier et ancien toxicomane, est aux commandes ce samedi. Avec d'autres bénévoles, il prépare 500 repas pour venir en aide aux habitants de la favela et aux sans-abri qui errent désormais sur l'avenida Atlântica, le front de mer, déserté ces dernières semaines.
Il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Donc on est là pour soutenir le projet, parce que la fin n'attend pas.
Ana Cristina Lima fait partie de la petite équipe bénévole. Cet employé domestique ne travaille plus pour ses patrons depuis une semaine, mais il continue de lui verser son salaire. Une chance que n'ont pas la plupart des travailleurs informels de la favela.
Il y en a encore beaucoup qui travaillent parce que leur patron ne les a pas libérés. Dans la favela, la vérité, c'est qu'on fait comme on peut.
Depuis que l'épidémie est arrivée au Brésil, les habitants des favelas ont d'abord été impactés économiquement. Les vendeurs ambulants qui travaillent sur la plage ou dans les rues se retrouvent sans argent pour manger du jour au lendemain. Jefferson Pelli, je fais partie de l'organisation et reçoit les dons de particuliers et de commerces.
C'est le moment de peser le pour et le contre. Si tout le monde reste à la maison et que personne ne sort pour régler les problèmes, beaucoup auront faim et n'auront vraiment plus rien à manger. Donc je pense que les risques que l'on prend ici, avec quelques précautions, comme des masques et du gel, eh bien ils valent la peine pour pouvoir aider d'autres personnes.
Une fois les repas prêts, ils sont embarqués dans deux voitures. Coffre ouvert, l'équipe scrute les personnes qui en auraient besoin dans les rues vides de Copacabana. Près d'un parc, une dizaine de personnes accourent quand elles comprennent qu'elles pourront manger gratuitement. L'équipe essaie de les discipliner en une file avec distance d'un mètre entre chaque personne. Et avant la distribution des repas, on asperge leurs mains de gel hydroalcoolique et leur remet un kit d'hygiène. Tous sont reconnaissants.
Vous faites ce que le gouvernement ne fait pas.
Car pour l'instant, malgré les promesses, les travailleurs informels et les familles les plus pauvres n'ont pas encore reçu d'aide financière. Et les recommandations d'hygiène sont difficiles à appliquer dans les favelas où les habitants n'ont parfois pas d'accès à l'eau. Depuis le début de la crise, Vania Ribeiro, présidente de l'association des habitants de la favela de Tabajaras, court dans tous les sens.
On a de sérieux problèmes à cause du manque d'eau. Nous menons une lutte acharnée. Aujourd'hui, on a passé la journée avec trois camions-citernes pour fournir des zones de la favela qui n'avaient pas d'eau.
Alors quand cette femme d'une cinquantaine d'années écoute les discours du président brésilien qui minimise le coronavirus en l'appelant de petite grippe, elle s'énerve.
Tout le travail de sensibilisation que les leaders communautaires sont en train de faire pour que les enfants restent à la maison, pour expliquer que les personnes âgées ne doivent pas sortir, que c'est une maladie contagieuse qui tue, eh bien le discours irresponsable du président de la République détruit en partie notre travail.
Dans la favela de Tabajaras, elle voit encore des églises évangéliques qui accueillent des fidèles. Les cultes religieux ont été considérés comme des services essentiels par Jair Bolsonaro.
J'ai la sensation que dans ces moments difficiles, au lieu de donner l'exemple et d'expliquer aux gens qu'ils ne peuvent pas se rassembler, les pasteurs aiguisent la foi des personnes désespérées et profitent d'elles.
Face à cette situation et à l'inaction des pouvoirs publics dans certaines favelas, ce sont les trafiquants qui prennent le relais et imposent une quarantaine aux habitants. Yoni Dutra habite le complexe do Alemão, un ensemble de 13 favelas dans la zone nord de Rio.
En
haut de la favela où ce sont les trafiquants qui dominent, ils ont ordonné à tous les habitants de rester chez eux. Ils ont instauré un couvre-feu en menaçant de punitions s'ils n'étaient pas respectés et tout le monde craint les punitions des trafiquants.
Dans ces quartiers où les habitants les plus pauvres s'entassent souvent dans des deux pièces à six personnes, la notification des cas de coronavirus est très compliquée et sous-évaluée. Mais l'épidémie risque de faire des ravages dans ce pays où 31 millions d'habitants n'ont pas d'accès à l'eau courante.
Terrifiant reportage de Sarah Cozzolino, notre correspondante au Brésil, dans les favelas de Rio, où il n'y a pas tellement d'autres possibilités que de se rassembler avec les évangélistes ou alors d'être confiné sous la menace des trafiquants. C'est ingérable, c'est injouable. J'ai envie de vous faire réagir, docteur Claire Georges, parce que vous êtes médecin, responsable donc de ces du pass de l'hôpital Saint-Louis, de cette permanence d'accès pour les aux soins et à la santé pour les plus précaires. Vous voulez réagir à ce reportage?
Oui, peut-être pour dire que ce que ça illustre, c'est que la santé, c'est pas simplement la dimension médico-technique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Et puis ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai, c'est des initiatives de terrain, des initiatives qui apparaissent parfois très simples et modestes, mais qui sont pourtant très importantes et qui peuvent aussi être un modèle de finalement porteur d'espoir de ce que pourrait être la suite. Vous disiez en introduction que, bien sûr, là, on est dans une phase qui est extrêmement difficile et incertaine, mais on est aussi dans une période où on voit émerger des choses qu'on ne voyait pas encore.
En tout cas, on prend conscience tous de notre commune vulnérabilité. De pistes, docteur Claire Georges, que vous avez déjà développées, de moyens de s'adapter, de faire autrement qu'on a toujours fait, de faire autrement, vraiment.
En effet, on prend conscience de notre interdépendance et finalement aussi, dans cette interdépendance, on est tous reliés, chacun contribue. Et finalement, ce qui apparaît dans cette crise actuelle et ce qu'on pressentait depuis longtemps, c'est l'importance finalement que l'humain, la capacité qu'on a chacun et tous ensemble à faire émerger des solutions qu'on n'avait pas anticipées, des solutions qu'on peut pas nous imposer entre guillemets technocratiques ou bureaucratiques, mais tout ça accompagné dans une nouvelle dynamique coopérative entre différents professionnels, entre le terrain et les administrations et les tutelles. C'est ce que je vois dans l'hôpital, ces cellules de crise où on écoute les personnes de terrain en lien avec la direction. Ça avance très vite et c'est vrai que nous, c'est aussi notre expérience, c'est au plus tôt tous ensemble. Quand on est dans une démarche collaborative, pluriprofessionnelle, on peut s'adapter. Et finalement, chacun apporte aux autres et finalement, on co-construit quelque chose de créatif et qui est le plus à même de s'adapter aux problématiques émergentes qu'on n'avait pas pensé. Et peut-être c'est ça le message d'espoir qu'on peut...
qu'on peut d'ores et déjà retirer de cette,
voilà,
de cette pandémie.
Déjà, voilà, c'est ce que l'on voit, ce qui se passe. C'est cette efficacité de l'intelligence collective, de l'intelligence humaine, de l'intelligence pratique, et que chacun d'entre nous a.
Précisément,
de l'expérience. Oui.
Précisément, docteur Claire-Georges, vous dites chacun d'entre nous là, vous l'avez, c'est évident, de même que Dominique Arouédan. J'ai envie de prendre en ligne Valérie Thomas, qui elle aussi a fait preuve de créativité. Elle est chef du pôle de médecine sociale du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le CACH, et elle a mis en place le tout premier centre d'hébergement pour les sans-abri infectés par le Covid-19. Bonjour Valérie Thomas.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Donc pour nous expliquer comment ça se passe finalement au quotidien dans ce premier centre d'hébergement pour les sans-abri avec lequel vous avez été finalement presque confiné et du coup vous avez dû vous adapter, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, nous effectivement le CACH de Nanterre c'est un établissement historique qui adosse des services de médecine sociale à un véritable hôpital, ce qui a constitué un avantage considérable. Et puis on a eu pour le coup, également, l'accompagnement sans faille de l'équipe de direction de Luce Legendre, notre directrice, et je dirais que les tutelles, l'ARS, la DRIL, la préfecture, ont tous embarqué sur aux différentes étapes de stratégie de lutte contre le virus. D'une part, nous, on a un centre d'hébergement d'urgence qui s'appelle le CHAPSA, et le premier pari était de ne pas le fermer. Et c'était de proposer un confinement de tous les usagers, donc 257 usagers, dans des contextes de promiscuité élevée, c'est un centre d'hébergement avec des chambres collectives. Et donc nous, on s'est mis en ordre de bataille assez vite. Les partenaires qui acheminent d'ordinaire les personnes hébergées, c'est-à-dire la BAPSA, la RATP et le 115, ont cessé leur activité le 16 mars. Et depuis le 16 mars, on est tous ensemble. Alors, il y a des usagers qui appellent le centre d'hébergement le CHAPSA Princesse en référence au paquebot. Et la phrase la plus récurrente est « on est tous dans le même bateau ».
Et oui, c'est ça, là, tous dans le même bateau, tous confinés, donc des sans-abri qui venaient dans un accueil provisoire, se sont retrouvés confinés avec vous et en même temps dans l'obligation de soins, parce qu'il y en a évidemment, enfin d'abord comment éviter de propager la maladie, il y en a qui sont infectés, comment les soigner, il a fallu tout réviser, faire tout complètement
autrement. Alors, il a déjà fallu les identifier. Donc, on avait mis en place dès le 12 mars un dépistage systématique de la température le matin et le soir de tous les usagers, vraiment une adaptation au quotidien. Et puis, on a mis une tente dans la cours du CHAPSA le 18 et 19 mars, après le démarrage du confinement, où on a dépisté cliniquement nos premiers cas Covid+. Et c'est là que s'est imposée l'idée de mettre en place une unité d'hébergement spécifiquement dédiée pour limiter la circulation du virus au sein du CHAPSA. Mmh. Là où on a milité aussi activement, c'est pour, au vu des conditions de promiscuité, on a équipé en masque, on a renforcé vraiment les consignes d'hygiène au sein du CHAPSA, et là c'est vraiment ça, c'est ce qui était complètement passionnant, parce que la population de sans-abri aujourd'hui est extrêmement hétérogène.
Bien sûr,
on a des figures historiques de grande précarité vivant sous les ponts, mais aujourd'hui ce sont des travailleurs précaires, de jeunes retraités à la rue, des femmes enceintes, des étudiants, des travailleurs du sexe, enfin c'est vraiment une société,
des migrants aussi,
des migrants également, avec les enjeux de barrières de langue et d'interculturalité, qui s'expriment d'ailleurs dans des différentes forme de fatalisme quant aux perceptions du corps, de la santé et du risque de mourir du virus. Donc, suite à ces dépistages, on a confiné les cas contacts et puis on a créé ces 48 lits qu'on appelle l'UCOP, donc l'unité d'hébergement des patients Covid précaires. On a accueilli jusqu'à présent 60 patients dont 26 sont déjà sortis guéris de l'unité. Et ça, pour moi, c'est la première donnée importante.
Alors,
on serait très demandeur de données sociales. Moi, je suis dans l'attente de l'impact de ce virus qui révèle vraiment les inégalités sociales de santé.
Hein.
Et ce qui est très paradoxal, c'est que les hébergés et les patients du pôle médico-social, finalement, ils ont résisté.
Les plus vulnérables ont résisté aux accidents, ont résisté à cette pandémie. Et donc, il y en a qui en sortent guéris. C'est assez extraordinaire comme initiative. Là aussi, c'est porteur d'espoir. J'ai envie de demander à nos intervenantes, au docteur Claire Georges, au professeur Dominique Héroëtan, de réagir à ces initiatives. Pour en savoir plus, on peut évidemment aller voir ça également sur Internet. Mais comment vous réagissez, Claire Georges, Dominique Héroëtan, à ce que vous venez d'entendre?
Peut-être redire que
Claire Georges,
c'est vraiment de l'observation du terrain, comme quelque chose d'un petit peu empirique, pragmatique, concret, entre guillemets de bon sens, mais surtout qui repose, quand je dis l'expérience des soignants, qui voient le problème et qui, en se mettant à nouveau tous ensemble, à ces plusieurs perspectives qui sont nécessaires, arriver de trouver comme ça une proposition qui n'existait pas, ça paraît improbable, mais pourtant, c'est mis en place et ça fonctionne. Ça fonctionne, il y avait des fortes probabilités que ça fonctionne, puisque c'est mis en place par des personnes qui savent, qui connaissent, qui sont expertes
au fond, il faut écouter ceux qui savent, il faut écouter ceux qui vivent, les plus vulnérables. Dominique Héroëtan, c'est révélateur, on s'en rend bien compte, de la tragédie à notre humanité, de la tragédie des guerres, de la tragédie de la pauvreté, de la misère, du manque d'accès à l'eau, de l'accès aux soins dans de nombreuses parties du monde. Ça peut aussi être révélateur d'autre chose, de faire autrement, d'enfin comprendre à quel point cette santé globale, l'accès aux soins pour tous sur la planète est totalement indispensable.
Oui, alors moi je verrais pour les situations africaines deux ressources très importantes. Au plan national, les jeunes. Les jeunes sur le continent sont très nombreux et peuvent être mis à contribution pour faire beaucoup de choses dans les quartiers. Bien sûr, en les protégeant, il ne s'agit pas de les exposer au risque, mais ils peuvent être mis à contribution pour l'habitat, pour l'approvisionnement en eau, pour la distribution d'eau, de savon, d'eau de Javel, pour rassurer, parler, voir dans les maisons peut-être ou les quartiers les premiers symptômes, orienter les personnes qui présentent des signes qui imposent une référence vers un médecin en hospitalisation. Ils peuvent faire vraiment, vraiment déjà beaucoup de choses. Et la deuxième ressource au plan international, j'ai entendu pas mal d'annonces récemment de l'aide française, de l'aide européenne, de la Banque africaine de développement en milliards d'euros, et l'engagement est très bien, mais on a besoin que ces engagements soient immédiatement opérationnels. On ne doit pas suivre des procédures très compliquées qui sont les leurs.
Oui, il faut changer complètement de manière
complètement
de faire.
On est en situation d'urgence,
absolument.
Il faut des mécanismes urgent et il faut plutôt amener du matériel, des consommables, de la protection pour les soignants, etc. et pour les populations. Très concrètement, organiser la distribution alimentaire vraiment pour les personnes qui vont perdre leur emploi, qui ont déjà perdu leur emploi.
Il y a urgence, il faut absolument agir tout de suite, débloquer tout de suite, faire autrement. On est obligé de faire autrement. On va en reparler parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé toutes ces pistes d'interrogation, de doute, de crainte, mais aussi d'espoir pour une santé enfin globale. Merci Dominique Héroëtan. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du groupe Afrique de la cellule de veille pour le coronavirus de l'Académie de médecine, médecin épidémiologiste et formidablement engagée. Merci docteur Claire Georges. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler de ces permanences de précarité et d'accès aux soins comme celles que vous dirigez à l'hôpital Saint-Louis à Paris, mais on en reparlera certainement. Merci Valérie Thomas, prenez soin de vous et de tous ceux que vous hébergez et soignez au sein de cette cellule Covid de la permanence d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Merci à vous trois.
Rendez-vous demain, chers amis auditeurs et auditrices de Priorité Santé. Nous attendons comme chaque jour vos témoignages et vos questions sur la page Facebook de l'émission. Surtout, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et pour votre interactivité. Merci à toute la fine équipe de Priorité Santé, à Cétou Saint-Maquet, Ophélie Lassen, Steve Leslie à la réalisation, ici à la radio ou à la maison en confinement. On apprécie tous ces moments partagés sur les ondes avec vous. Et on se retrouve demain, surtout, surtout, avec notre humanité en commun. Prenons soin de nous tous. Sur RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.